Étudier un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église au XXe siècle, l'œcuménisme. Le XXe siècle est le siècle de l'œcuménisme, enfin est marqué en tout cas par l'œcuménisme qui est un des phénomènes majeurs de l'histoire de l'Église à cette période-là. Les siècles précédents, depuis le XVIe siècle, avaient vu, notamment au niveau de la chrétienté occidentale, le morcellement de plus en plus important. Et à partir donc du début du siècle, le mouvement va s'inverser. Il est encore trop tôt pour dire où cela va aboutir. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience que ce morcellement n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Bon, cette prise de conscience qui a son origine dans le monde protestant rejoint évidemment une aspiration permanente de l'Église catholique qui n'a jamais pris son parti de la rupture du XVIe notamment et qui a toujours espéré qu'un temps viendrait où elle pourrait récupérer justement les dissidents. Et après avoir longtemps boudé l'œcuménisme, après avoir considéré comme quelque chose de suspect, l'Église catholique a fini par comprendre que l'aspiration du mouvement, si elle y jetait son poids, pourrait aboutir à ce qu'elle avait toujours rêvé, c'est-à-dire justement la fermeture de la parenthèse de la réforme. Et c'est ainsi que, dans un deuxième temps, l'Église catholique a rejoint le mouvement œcuménique. Bon, le mouvement œcuménique a des origines, des bases, pourrait-on dire, déjà au XIXe siècle. Et c'est ainsi qu'en 1846 est créée l'Alliance évangélique. L'Alliance évangélique est, comme son nom l'indique, un mouvement qui n'est pas, comment dirais-je, une super-église, mais qui a déjà pour but le rapprochement des églises qui ont une base de foi minimale commune et qui s'engagent à œuvrer ensemble pour manifester une certaine unité. Et voilà par exemple ce qu'a été élaboré dans cette fameuse conférence de 1846. Les membres de l'Alliance seront uniquement des personnes qui maintiennent ce qu'on appelle des vues évangéliques en ce qui concerne les points de doctrine suivants. Premièrement, l'inspiration divine, l'autorité et la toute suffisance des Saintes Écritures. Deuxièmement, l'unité de Dieu dans la Trinité des personnes divines. Troisièmement, la dépravation totale de la nature humaine, conséquence de la chute. Quatrièmement, l'incarnation du Fils de Dieu, son œuvre de réconciliation pour les hommes pécheurs, son intercession et son règne en tant que médiateur. Cinquièmement, la justification du pécheur par la foi seule. Sixièmement, l'œuvre du Saint-Esprit pour la conversion et la sanctification du pécheur. Septièmement, l'immortalité de l'âme, ça moi je tiquerai fort là-dessus, la résurrection du corps, le jugement du monde par notre Seigneur Jésus-Christ, la félicité éternelle des justes et le châtiment éternel des méchants. Entre parenthèses, cet article sur l'immortalité de l'âme nous montre à quel point nous sommes marqués par la philosophie grecque. Et même justement dans le monde évangélique, parce que voyez-vous, on en était encore là à la moitié du siècle dernier. Huitièmement, le ministère chrétien en tant qu'institution divine, le devoir permanent de célébrer le baptême et la Sainte Cène. Neuvièmement, le droit et le devoir d'user du jugement personnel pour l'interprétation des Saintes Écritures. On n'envisage pas que l'Alliance prenne ou aspire à prendre le caractère d'une nouvelle organisation ecclésiastique, donc pas une nouvelle Église ni une super-Église, ni qu'elle prétende exercer les fonctions d'une Église chrétienne. Son but simple et vaste peut être atteint sans intervention et sans modification dans l'organisation chacune des branches de l'Église chrétienne auxquelles les membres de l'Alliance peuvent se rattacher. La conférence a déclaré qu'elle s'était réunie non pour créer l'unité chrétienne, mais pour confesser l'unité que l'Église possède déjà en tant que corps de Christ. Alors là, on est vraiment dans une vision évangélique classique, avec une espèce de presque de sanctification des ruptures, dans ce sens que, bon, on considère que malgré la diversité, diversité est un mot faible, n'est-ce pas ? On a l'unité existe, l'unité spirituelle existe au niveau de l'Église invisible. On fait une distinction subtile entre l'Église visible, avec laquelle finalement on est en communion avec des gens qui appartiennent à une autre Église que la nôtre, mais dans la vision de l'Église universelle invisible, on est en communion avec ces gens-là. Maintenant, sur le terrain, on peut les combattre à mort, mais enfin, voilà. Donc ici, l'Alliance évangélique tend quand même à tempérer un peu ça, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des excès, mais il n'est pas question, en quelque sorte, de rechercher une unité, mais de manifester, d'exprimer celle qui est donnée. Finalement, c'est de dire, ben, la division n'existe pas. Bon, c'est quand même un peu discutable. Et puis, deuxièmement, donc, il n'est pas question de chercher des structures, etc. etc. Bon. Alors, là, c'est le point de départ. C'est le point de départ d'un mouvement qui va aboutir, un demi-siècle plus tard, donc, à des choses beaucoup plus précises. Deuxième étape, préliminaire, préparatoire de l'œcuménisme. À Madère, en 1889, un lord anglais qui s'appelle Lord Halifax est en repos, en vacances, disons. C'était l'époque où c'était des endroits, Madère, la Côte d'Azur, et des endroits pareils, étaient très recherchés par les riches anglais, n'est-ce pas, qui venaient y passer des vacances. Donc Lord Halifax, qui était anglican, bien entendu, était dans l'île de Madère, où il a rencontré un jeune lazariste, prêtre lazariste, qui s'appelait l'abbé Portal, qui était français, et qui, en bon catholique qu'il est, en réalisant qu'il a affaire à un anglican, cherche à le convertir au catholicisme. Et ce d'autant que Lord Halifax semble assez perméable au discours de son jeune auditeur, et Lord Halifax, profitant de ce temps de loisir qu'il avait, se met à étudier à fond la doctrine catholique, ce qui l'amène à voir le catholicisme avec d'autres yeux que ceux auxquels il était habitué dans sa propre Église. Et finalement, il n'abandonne pas son Église, il ne se convertit pas au catholicisme, mais il se dit que peut-être il serait possible qu'il y ait un rapprochement entre les deux Églises, que finalement, les deux églises ne sont pas si éloignées que ça, et que peut-être un certain nombre de choses pourraient être faites. Bon, ce sont donc des conversations tout à fait informelles qui ont lieu dans cette île de Madère, mais qui vont marquer déjà un deuxième jalon par rapport à 1846, vers justement ce chemin de l'œcuménisme. Au début du siècle, nous sommes en pleine crise moderniste, qui atteint donc l'Église catholique. Et cette crise moderniste n'est pas sans rappeler non plus ce que le protestantisme a connu quelques dizaines d'années auparavant avec le libéralisme. De telle sorte que un certain nombre de catholiques qui sont touchés par le modernisme vont chercher à se rapprocher des protestants. Plus que des protestants, où à cette époque-là, donc, on est quand même assez à couteau tiré, les premiers interlocuteurs vont être, comme c'était le cas pour Lord Halifax, les anglicans. Les anglicans qui d'abord sont structurellement plus proches de l'Église catholique que ne sont les autres familles protestantes, et deuxièmement parce que justement il y a eu ce précédent de Lord Halifax. Et c'est ainsi que entre 1921 et 1926, vont avoir lieu à Malines, en Belgique, des conversations aussi quelque peu informelles entre anglicans et catholiques sous la présidence du cardinal Mercier, qui va être un des grands pionniers justement de l'unité. Et au terme de ces conversations de Malines, comme on les appelle, pour la première fois, l'Église catholique admet que l'unité peut se faire autrement que par une récupération des églises non catholiques à l'intérieur de l'Église romaine. Et c'est ainsi que le cardinal Mercier admet que l'Église catholique pourrait être unie, l'Église anglicane, pardon, pourrait être unie à l'Église catholique sans pour autant être absorbée par l'Église catholique. Bon, quand on gratte un peu, bien entendu, on se rend compte que ça, c'est des mots. Quelle différence entre être uni et être absorbé, bon, finalement tout est en nuance, tout est en subtilité, mais enfin Déjà, là, il y a une certaine concession qui est faite au niveau de l'Église catholique. Quelques années auparavant, en 1902, le patriarche de Constantinople, Joachim III, avait exhorté toutes les églises orthodoxes à avoir des relations avec l'Église catholique, qui finalement était aussi assez proche. L'Église orthodoxe était et est encore très anticatholique. Et bien que le patriarche était enfin, en principe, le patriarche de Constantinople était et est toujours le primus inter pares, le premier entre ses pairs, il n'a pas l'autorité papale du tout, n'est-ce pas ? Et son appel s'est heurté à une fin de non-recevoir unanime de tous ses collègues. Les autres prélats orthodoxes ont rejeté tout contact avec l'Église catholique, ce qui n'a pas empêché Joachim III de récidiver en 1920, c'est-à-dire à peu près au moment où avaient lieu justement les conversations de Malines. Cette même année, les évêques anglicans se rassemblent dans leur conférence annuelle qui a lieu à Lambeth cette année-là. Et là, sous justement l'influence de Lord Halifax, ils se posent la question de l'unité. Bon, c'est interne à l'Église anglicane, ça ne dépasse pas encore. Mais finalement, ils concluent que l'unité doit se faire sur trois bases qui leur semblent importantes. Une direction synodale de l'Église, la question des sacrements qui doit donc être revue, et puis aussi, bien sûr, la question des ministères. Maintenant, donc, on voit ici un certain nombre de courants qui naissent indépendamment les uns des autres, mais qui vont dans la même direction. Premièrement, une prise de conscience en milieu anglican et en milieu catholique du bien fondé d'un rapprochement, indépendamment de ce rapprochement anglican-catholique, une prise de conscience aussi timide encore dans les milieux orthodoxes aussi de cette exigence de l'unité, et puis en 1910-1911, en milieu protestant. En milieu protestant, c'est la fameuse conférence d'Édimbourg qui marque officiellement aujourd'hui la naissance de l'œcuménisme au sens profond du terme. Les conversations de Malines, celles de Madère, la conférence de Lambeth n'étaient finalement que des préparatifs. Mais l'œcuménisme en tant que mouvement naît en 1911 à Édimbourg. Édimbourg, c'est une conférence missionnaire, d'abord. Là, les différentes missions évangéliques qui travaillent outre-mer se rassemblent. N'oublions pas que nous sommes à cette époque-là, jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans le grand élan missionnaire du XIXe siècle. Ce grand élan missionnaire va se poursuivre justement jusqu'en 1914. Nous aurons l'occasion de voir ça quand nous parlerons des missions. Et là, toutes les grandes églises ont des missions un peu partout dans le monde. Et puis finalement, on est arrivé à constater que bien souvent, on est amené à se marcher plus ou moins sur les pieds. Que chaque dénomination mène son action missionnaire sans concertation avec les autres, et que cela provoque des frictions, voire des rivalités. Ne parlons pas évidemment du fait que les catholiques aussi marquent les protestants aux chaussettes et vice-versa, et que par conséquent, là, c'est une situation qui est problématique et qui est un contre-témoignage. Et à partir du début du XXe et déjà à la fin du XIXe, on se rend compte que ces rivalités entre églises, sur le champ missionnaire notamment, nuisent considérablement au témoignage et par conséquent à la pénétration de l'Évangile. Et finalement, on décide de rassembler à Édimbourg une conférence pour essayer d'harmoniser les violents. Il faut dire que ceux qui sont presque plus demandeurs de ce genre de choses, ce sont les chrétiens indigènes. Les chrétiens indigènes qui sont les premiers à souffrir justement de ces discordances, de ces rivalités, etc. Et les chrétiens indigènes donc interpellent les responsables des missions en disant ceci: vous nous avez apporté Jésus-Christ, mais vous nous avez aussi apporté vos divisions. Et cette interpellation est reçue par les responsables des grandes organisations missionnaires qui sont rassemblées à Édimbourg. Et finalement, on décide de faire quelque chose. Alors, d'abord, il y a évidemment des problèmes doctrinaux. Toutes les églises n'ont pas la même doctrine. Et on se rend compte qu'il est illusoire de vouloir justement faire disparaître ces divisions dont parlent les églises indigènes, comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est essayer de travailler ensemble dans le domaine pratique. Et on crée donc une commission qui s'appelle Life and Work, la vie et les œuvres, c'est pas ? Et qui a pour but justement de créer des instances pour éviter que des missions qui n'auraient pas tout à fait la même doctrine, mais qui seraient d'accord sur l'essentiel, parce qu'on est quand même là sur une base évangélique, et finalement on reprend la base de 1846, de l'alliance évangélique, puissent éviter de se concurrencer. Dans le même temps, reste le problème doctrinal. Ce problème doctrinal, on conçoit avec beaucoup de réalisme que ce n'est pas dans une conférence aussi courte qu'on va pouvoir le résoudre, mais on décide néanmoins de s'y attaquer. Il faudra des années, vraisemblablement, peut-être même davantage, des décennies pour qu'on résolve les problèmes doctrinaux. Mais l'interpellation des frères africains, notamment, fait qu'on décide malgré tout de s'attaquer à ce problème. Et après Life and Work, on crée une deuxième commission qui s'appelle Faith and Order, qu'on traduit en français par « foi et constitution », qui a pour but, elle, de s'attaquer justement aux problèmes doctrinaux, qui est une commission théologique, une commission de réflexion théologique. Il est décidé de se revoir occasionnellement, justement, pour continuer ce genre de conférences. Bon. Encore une fois, à Édimbourg, ne sont rassemblées que des églises évangéliques. Ce n'est même pas l'ensemble du protestantisme, c'est l'aile évangélique du protestantisme. C'est très intéressant de voir que c'est là, finalement, que commence l'œcuménisme. Bon. Un premier congrès a lieu quelques années après à Stockholm, donc après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres. Et il est certain que la marche de l'œcuménisme, qui est née en 1911 à Édimbourg, est considérablement perturbée par les deux guerres mondiales. Le deuxième congrès, donc, qui était prévu 4 ans après, ne peut avoir lieu, puisqu'entre-temps la guerre mondiale a éclaté. Après la Première Guerre mondiale, il y a tout le problème de la reconstruction, etc. Si bien qu'entre les deux guerres mondiales, il n'y aura qu'un seul congrès qui aura lieu justement à Stockholm, qui n'a pas marqué particulièrement les annales, parce que justement, on était là dans une période troublée. Si ce n'est justement que on a commencé vraiment le travail de réflexion doctrinale, notamment foi et constitution, s'est mis en place véritablement. Il y a eu un deuxième congrès après Stockholm, ça a été à Lausanne, justement, entre les deux guerres également. Puis ensuite est éclatée la Deuxième Guerre mondiale et il a fallu attendre 1948 pour qu'ait lieu la quatrième conférence mondiale, justement. On ne parlait pas encore à cette époque-là du mouvement œcuménique, n'est-ce pas ? En 1948, donc à Amsterdam. Et c'est à partir de ce moment-là que les églises protestantes, qui n'étaient pas évangéliques, se sont intéressées au mouvement. Et notamment des gens comme Karl Barth, etc., aussi parce qu'il y avait justement toute cette dimension d'un travail théologique par l'intermédiaire de Foi et Constitution, et puis aussi l'Église catholique. L'Église catholique qui, donc, de son côté, avait déjà posé un certain nombre de jalons, comme on l'a vu avec l'ordre Halifax d'une part, puis ensuite les conversations de Malines, et puis ensuite donc la conférence de Lambeth, avec laquelle, elle n'avait pas participé directement, mais il y avait eu bien sûr des contacts ensuite avec l'Église anglicane qui en avait résulté. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, comme je disais tout à l'heure, l'Église catholique avait été très réservée sur ce qui s'était passé à Édimbourg et les suites. Pourquoi ? Parce que justement, c'était quelque chose qui était né dans un milieu très évangélique, qui était finalement très éloigné de la piété et de la doctrine catholique. Et l'Église catholique, donc, avait décliné des invitations qui lui avaient été faites pour le congrès de Lausanne en particulier. Mais ça et là, entre les deux guerres, et surtout au lendemain de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, des contacts informels avaient commencé à avoir lieu sur le terrain, si j'ose dire. Bon, ces contacts avaient commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu une collaboration de fait des églises entre elles dans la résistance au nazisme. Non pas que l'Église catholique elle-même ait basculé dans la résistance, comme on l'a vu, bien au contraire, quand on a vu l'histoire de l'Église catholique, mais des individus sur le terrain, n'est-ce pas, que ce soit des catholiques ou que ce soit des prêtres ou même parfois des dignitaires importants de l'Église catholique, des prélats, des cardinaux, des archevêques, n'est-ce pas, avaient collaboré avec des gens, des protestants, des gens d'autres dénominations pour aider des juifs, des résistants, etc., etc. Bon, on sait par exemple que le protestantisme français, lui, avait décidé de prendre parti pour la résistance à fond, officiellement. Le pasteur Bugner avait demandé à tous les pasteurs de France et de Navarre d'entrer en résistance, n'est-ce pas? Bon, tous ne l'avaient pas fait, mais enfin, une grande majorité l'avait fait. Donc, il y a eu des contacts d'homme à homme qui s'étaient créés pendant la guerre et qui se sont poursuivis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans des conversations très importantes. Par exemple, le Pernic dont nous avons parlé sur l'île avait eu des contacts très étroits avec le cardinal Liénard, qui était un cardinal archevêque de Lille à cette époque-là. Bon, il y avait eu comme ça des contacts très, très nombreux. Et c'est ainsi que l'abbé Couturier, qui était né à Lyon en 1881, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, relancé à fond l'idée de l'unité à partir justement de ce qu'avait été l'œuvre du cardinal Mercier. Et en milieu catholique, le cardinal Mercier d'une part et l'abbé Couturier d'autre part sont les deux pionniers de l'œcuménisme. L'abbé Couturier avait eu depuis 1930 des contacts avec les orthodoxes russes. Et de là, il avait aussi, comme l'avait fait le patriarche de Constantinople, pensé que éventuellement un temps était venu maintenant d'amorcer un rapprochement entre les deux branches de la chrétienté, la branche orientale et la branche occidentale. Et en 1935, il avait lancé l'appel à la prière pour l'unité. L'idée d'une semaine de prière qui serait une prière pour l'unité de tous les chrétiens. Et les fameuses semaines de prière de l'unité de la troisième semaine de janvier ont été lancées en 1937 par justement l'abbé Couturier. Avec la fameuse prière qui est souvent lue à cette occasion-là, n'est-ce pas ? L'abbé Couturier était bien conscient que c'était une véritable gageure, surtout à l'époque, n'est-ce pas, parce que il n'était pas question, bien entendu, que l'Église catholique renonce à ce qu'elle croyait, son identité, etc. Et l'abbé Couturier, qui était un homme honnête, était bien conscient qu'il ne pouvait pas non plus demander aux autres églises de renoncer à leur identité, pas plus qu'il n'était prêt à renoncer à la leur. Donc, humainement parlant, la situation était totalement bloquée. Et alors, la formule de l'abbé Couturier avait été celle-ci, comptez sur Dieu, Dieu peut faire l'impossible, n'est-ce pas ? L'unité que Dieu voudra, comme il voudra, et quand il voudra. Et c'était les trois axes de la prière universel pour l'unité des chrétiens qu'il avait lancé, n'est-ce pas ? Les trois actes de cette prière, l'unité que Dieu voudra, non pas l'unité que nous, nous voulons, telle que nous la concevons, que nous soyons catholiques ou protestants, comme il voudra, par les moyens qu'il voudra, donc, et puis, finalement, à son heure, quand il voudra. Le cardinal Mercier avait accepté donc de cautionner l'initiative de l'abbé Couturier, et c'est ainsi que, dans ces années-là, a commencé donc la prière universelle pour l'unité des chrétiens, qui, à cette époque-là, notons-le bien, était complètement différente de toutes les autres, par exemple, du mouvement d'Édimbourg, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de connexion à cette époque-là du tout, c'était quelque chose de tout à fait indépendant. Seulement, ces différents mouvements montrent qu'il y avait là une préoccupation qui devenait universelle dans la chrétienté, une aspiration à l'unité, une aspiration à mettre fin justement à toutes les divisions qui avaient marqué les siècles précédents et qui, comme des petits foyers qui prenaient ça et là, n'est-ce pas, allaient finalement se rassembler pour former un seul mouvement qui serait justement le mouvement œcuménique. À la suite de l'appel de l'abbé Couturier en 1937, un autre pionnier de l'œcuménisme catholique va intervenir, c'est le père Congar. De manière très intéressante, la part qu'ont joué les catholiques français dans le mouvement œcuménique. Hein. Les trois pionniers sont des Français, donc le cardinal Mercier, l'abbé Couturier et le père Congar. Et le père Congar, lui, a créé dans l'abbaye des Dombes un groupe de réflexion catholique-protestant, qu'on appelait le groupe des dons, qui était un groupe de réflexion catholique, un groupe de réflexion théologique, je veux dire. Là, il y avait donc un certain nombre de théologiens catholiques qui rencontraient plusieurs jours par an un nombre égal de théologiens protestants. C'était donc dans le cadre d'une abbaye, ça veut dire qu'ils vivaient au rythme de l'abbaye. C'était non seulement un temps de réflexion théologique, mais un temps de prière en commun. On priait et on réfléchissait. Et c'était quelque chose qui n'était pas officiel, qui n'avait pas l'aval de la papauté, par exemple. C'était encore un groupe informel qui avait été créé à l'initiative de ce père Congar. Et la règle du jeu était celui d'une totale transparence et d'une totale franchise. Il n'était pas question de chercher à convertir l'autre à sa foi, mais de réfléchir ensemble sur les points qui faisaient problème. Et là, donc, chacun d'exposer en toute humilité, en toute transparence, en toute vérité, ce qu'était sa foi profonde et sa foi intime. Et d'écouter l'autre aussi, faire la même démarche. Et le groupe des Dombes a duré pendant des dizaines d'années, évidemment il a été renouvelé par cooptation, c'était comme ça. Il n'a jamais été officiel, ni du côté protestant, ni du côté catholique. Ça. Et au fur et à mesure des travaux de ce groupe, qui n'était mandaté par personne finalement, hein, mais qui a fini par être reconnu comme étant une instance de réflexion œcuménique essentielle, hein, vu la qualité de la réflexion qu'il y avait là, et qui a publié un certain nombre de documents, les documents des groupes des Dombes au bout de plusieurs années, où en est-on sur telle question ? Alors, je ne sais pas, moi, la mariologie, par exemple. Finalement, on notait les points de convergence, voilà sur quoi on est d'accord et voilà sur quoi on n'est pas d'accord. Sur le ministère, sur l'Eucharistie, sur les sacrements, enfin bref, etc. Il y a eu les groupes des Dombes ont sorti des documents qui sont encore aujourd'hui, évidemment, les documents de base pour la réflexion œcuménique. C'est intéressant de noter que le groupe des Dombes vient de se saborder il y a un an ou il y a quelques temps, quelques mois peut-être, n'est-ce pas ? Et l'abbaye des Dombes, d'ailleurs, a été vendue. C'est fini. Cette instance de réflexion est terminée. L'abbaye elle-même a fait faillite. Le nombre des moines était trop peu important pour faire vivre l'abbaye. Donc, l'abbaye a été vendue et les vieux moines qui restaient se sont dispersés dans d'autres abbayes, etc. Quoi. Bon. Alors c'est une page aussi qui se tourne et qui nous montre à quel point on en est arrivé justement aujourd'hui dans, à l'infection œcuménique, comme nous allons voir justement dans un instant. Et là, donc, le but était de découvrir aussi les valeurs qu'il y a chez les autres. Essayer de comprendre la mentalité de l'autre, plutôt que de le juger, pourquoi l'autre réagit comme ça. Je ne peux pas être d'accord avec lui, bien sûr. Mais j'essaie de comprendre pourquoi lui, justement, arrive à cette conclusion-là. Et finalement, est-ce que, au-delà des désaccords qui sont les nôtres, est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, des choses positives que je peux recevoir de ce dialogue ? Et finalement, ce que notaient les participants du groupe des Dombes, c'était qu'il y avait... On n'a pas obligatoirement fait beaucoup de pas dans une réconciliation théologique, mais on a pu découvrir davantage ce qu'était sa propre foi. Et les théologiens catholiques disent « on est sorti de là plus catholique qu'on était », et les protestants disent « on est sorti de là plus protestant qu'on était en y entrant ». Bon, je ne porte pas de jugement de valeur sur la chose, je constate le fait, simplement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les théologiens catholiques, notamment, ont noté, ont reconnu qu'il y avait eu des erreurs de la part de l'Église catholique. Ça, c'était énorme. Bon, ça, les protestants l'avaient toujours dit, mais de leur côté, qu'il y avait des erreurs aussi. Mais ça, ça ne posait pas problème dans une dogmatique protestante, parce que jamais aucun dogmaticien protestant n'a prétendu que son Église était infaillible. Par contre, les dogmaticiens catholiques, oui. Et c'était pour la première fois ici que des dogmaticiens catholiques reconnaissaient que dans un certain nombre de domaines, l'Église catholique, leur Église, pouvait s'être trompée. Ça devait avoir des conséquences graves parce que justement, c'est ce mouvement qui finalement aussi va aboutir à Vatican II. Ça commence entre les deux guerres, mais ça va aboutir à Vatican II. Et ça va aboutir à un formidable ébranlement de l'Église catholique, parce que ce qui faisait la puissance de l'Église catholique, c'était justement cette idée qu'elle était infaillible. Cette idée qu'il y avait aussi chez le peuple que l'Église était infaillible. À partir de Vatican II, l'Église dit, on s'est trompé. On s'est trompé sur des détails. Et on s'est surtout trompé, disent les théologiens des Dombes, notamment dans la polémique anti-protestante. D'accord. Mais si vous êtes trompé sur ces points-là, qu'est-ce qui nous garantit, nous, gens du peuple, que vous ne soyez pas trompés sur des questions beaucoup plus importantes ? Et le doute s'infiltre dans l'Église catholique, y compris chez des clercs, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et au-delà, bien dans le peuple. Et la déroute de l'Église catholique qui marque la fin du XXe siècle n'est pas... sans avoir aussi affaire avec l'œcuménisme. L'œcuménisme a aussi eu un effet délétère sur l'Église catholique, que les catholiques intégristes, des gens comme l'évêque Lefebvre, par exemple, dont on a parlé la deuxième fois, ont bien compris, que Jean-Paul II, lui aussi, a bien compris. Et si actuellement, l'Église catholique et Jean-Paul II freinent des quatre fers en ce qui concerne l'œcuménisme, c'est pas sans raison non plus de leur côté. Et ça, il faut le savoir, ça ne veut pas dire qu'on approuve, mais enfin, ça veut dire qu'il faut comprendre aussi une réaction qui, d'un point de vue catholique, n'est pas dépourvue de logique, disons. Bien, donc, 1948, Amsterdam. Et Amsterdam, c'est le départ aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un rapprochement entre le mouvement... de Dimbourg, et puis l'Église catholique. L'Église catholique qui n'adhère pas au mouvement de Dimbourg, mais qui, se dit qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant là, qui rejoint sa préoccupation, qui rejoint la volonté de la prière pour l'unité. Et à partir de 1958, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui sont engagés justement dans ce qu'on commence à appeler à cette époque-là le mouvement œcuménique, on commence à parler de cette manière-là, du mot œcuméné en grec signifie universel, n'est-ce pas ? Toute la terre habitée très exactement, n'est-ce pas ? C'est tiré de du texte, vous savez, de ce qu'on appelle la Grande Commission, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aller par tout l'Ocuméné et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aller par tout le monde habité. Et finalement, pourquoi on a employé ce mot d'Ocuméné ? Parce que justement, au départ, le mouvement œcuménique, nous l'avons vu, était un mouvement missionnaire. Et finalement, pourquoi l'unité ? Eh bien, c'est le texte de Jésus, « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça a été le départ d'Edinburgh, et ça l'est resté, c'est resté la base du mouvement œcuménique, même si, évidemment, on y a mis d'autres choses depuis. Bon. Donc, l'Église catholique cherche à se rapprocher. À cette époque-là, donc, à partir de 1948, nous avons là les grands leaders protestants d'Europe qui appuient à fond le mouvement. Le pasteur Martin Niemöller, qui était donc une des grandes figures de l'Église confessante allemande, puisqu'il avait été en camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir osé résister à Hitler, hein, et il va être donc quelqu'un qui va apporter sa caution au mouvement. Karl Barth, qui, bien que très anti-catholique, appuie beaucoup le rapprochement des protestants entre eux. Et en 1948, est créé ce qu'on appelle un conseil qui va avoir pour but de coordonner l'action des différentes commissions, notamment Life and Work and Faith and Order. Et ce conseil prend le nom de Conseil œcuménique des Églises, dont le premier président est le pasteur hollandais Visser Hooft. Et les catholiques vont donc être invités et participer à toutes les conférences qui vont suivre en tant qu'observateurs. Et l'un des principaux observateurs des Amsterdam, c'est le père Bruno Chenu, qui va être jusqu'à sa mort, d'ailleurs il est mort très vieux, œcuménique, disons. Le premier congrès d'Amsterdam va poser les bases, justement, de ce que, finalement, qu'est-ce que c'est, quelles sont les églises avec lesquelles on peut dialoguer. Bon, c'est-à-dire les frontières. Où va-t-on s'arrêter dans l'œcuménisme ? Bien, à cette époque-là, beaucoup d'églises protestantes s'intéressent au mouvement. L'église catholique s'en rapproche aussi. Bon, l'église orthodoxe est encore très loin, mais enfin, on ne perd pas l'idée un jour de l'amener aussi à s'intéresser au mouvement. Mais sur quelle base ? Quelles sont les conditions ? Où va-t-on s'arrêter ? Quelles sont, en quelque sorte, les différences légitimes et les différences qui sont séparatrices ? À quel moment pourra-t-on dire telle église est chrétienne, par conséquent, on peut dialoguer avec elle, ou telle église n'est pas chrétienne ou n'est plus chrétienne. Et c'est Amsterdam qu'on pose cette base, qui est la base du Conseil œcuménique jusqu'à aujourd'hui, c'est le dogme trinitaire, c'est Nicée. Les églises unitaristes ou unitariennes, ça veut dire qui ne confessent pas Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ne peuvent pas entrer dans le Conseil œcuménique. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Bon, ça me semble tout à fait valable. Et c'est donc dans ces circonstances-là que quelques années plus tard, donc 1958, Jean XXIII devient pape. Jean XXIII, qui a suivi déjà en tant que prélat, archevêque cardinal de Venise, les progrès du mouvement œcuménique, et qui, dès son entrée en fonction, en 1958, déclare vouloir convoquer un concile œcuménique. Concile œcuménique qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le conseil œcuménique. Concile œcuménique, c'est un concile de l'Église catholique, et uniquement de l'Église catholique, qui ne concerne que l'Église catholique. L'Église catholique considère que tous les conciles qu'elle a parrainés sont des conciles œcuméniques, ce que contestent les orthodoxes. les orthodoxes ne reconnaissent comme œcuméniques que les sept premiers conciles. Après le septième concile, il y a eu rupture donc entre l'orthodoxie et le catholicisme. Par conséquent, disent les orthodoxes, nous considérons comme nulles et non avenues les décisions des autres conciles, auxquels nous n'avons pas participé. Mais, bien entendu, l'Église catholique considère que ces conciles sont œcuméniques et concernent toute la terre habitée. Les orthodoxes rigolent quand les catholiques disent ça, parce que nous, on est un bon tiers de la chrétienté, et bon, on n'est pas représenté, ne parlons pas des protestants. Donc, annonce d'un concile œcuménique. À cette époque-là, donc, on parlait à la fois de l'œcuménisme au sens du CE, du Conseil œcuménique des Églises d'Amsterdam, n'est-ce pas ? Et on parlait aussi du concile œcuménique, et les gens faisaient l'amalgame. Ils ne comprenaient pas très bien. D'autant que, justement, Jean 23, en convoquant le concile œcuménique, avait annoncé qu'il inviterait comme observateur les membres de toutes les autres églises, et qu'une des préoccupations du concile œcuménique serait les relations avec les autres églises. Et Jean 23 avait créé un secrétariat pour l'unité des chrétiens, à la tête duquel il avait mis un cardinal allemand qui était très ouvert à l'œcuménisme, le cardinal Béat. Et le cardinal Béat avait expliqué ce qu'était le mandat qui lui avait été confié par le pape, c'était de dialoguer avec non plus les hérétiques, parce que c'était la terminologie qui était employée dans le catholicisme jusqu'à cette période-là, jusqu'à 1958, mais maintenant les hérétiques devenaient des frères séparés. C'était nouveau. Qui étaient les frères séparés ? C'était des membres d'églises qui n'étaient pas unis avec Rome, mais qui, bien que n'étant pas dans la pleine communion de l'Église catholique, donc universelle, étaient néanmoins des membres du corps de Christ, étaient néanmoins des chrétiens. Ça, c'était quand même assez extraordinaire que pour la première fois, l'Église catholique acceptait de reconnaître que des gens qui n'appartenaient pas à son institution pouvaient être aussi des chrétiens. Alors des chrétiens qui n'avaient pas la pleine lumière, qui n'avaient pas la pleine communion, et le devoir du mouvement œcuménique catholique était de ramener dans l'unique bercail, conduite par l'unique pasteur vicaire du Christ, les frères séparés. Bon, c'était évidemment des choses qui n'était pas acceptable du côté protestant, ça va de soi. Mais enfin, c'était quand même un langage nouveau. C'était quand même un langage nouveau et ça a été noté. Maintenant, un an après Amsterdam, en 1949, un pasteur suisse qui avait été pasteur en France pendant la guerre et qui avait aussi participé à la résistance, a créé dans une petite bourgade de Bourgogne qui s'appelait Thésée une communauté de type monastique mais protestant. Il a rassemblé autour de lui sept frères, et à Pâques de 1949, les huit frères avec frère Schulz, comme on l'a appelé à cette époque-là, n'est-ce pas ? Il s'appelait pasteur Roger Schulz, il est devenu frère Schulz. Ils ont prononcé les trois vœux monastiques classiques de chasteté, pauvreté, obéissance. Pas au pape, mais au supérieur. Et donc Thésée est devenu ensuite ce que l'on sait, on en a déjà parlé. Tandis que un an plus tard, en Italie, en 1950, une première commission catholique, une conférence catholique sur les questions d'unité était créée, qui devait aboutir donc à la convocation du Concile de Vatican II quelques années plus tard, en 1962. Donc, 1962, convocation du Concile œcuménique avec des observateurs protestants. Non seulement protestants, mais également orthodoxes d'ailleurs, n'est-ce pas ? Non catholiques, disons, qui appartenaient aux frères séparés. Et Jean 23 a commencé le concile en demandant pardon aux frères séparés pour les persécutions dont ils avaient été l'objet. Une des grandes révolutions qui marquera Vatican II, c'est aussi le schéma sur la liberté religieuse. Jusqu'alors, la doctrine officielle de l'Église catholique était que seule la vérité devait jouir de la liberté et que les États devaient donner toute liberté à l'Église catholique pour déployer ses activités, son prosélytisme, etc. Et, au contraire, devait réprimer l'erreur. Et par conséquent, devait refuser la liberté aux erreurs. Donc, les erreurs, c'est-à-dire les églises non catholiques. Ce que des États catholiques se sont empressés de faire, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc., c'était la règle jusqu'en 1962. Et pour beaucoup de prélats catholiques, notamment originaires de ces pays, accepter le schéma sur la liberté religieuse a été un véritable crève-cœur. Hein. Ça a été le schéma le plus difficile qui a été adopté. Et finalement, il l'a été, évidemment. Et ça, c'était un préalable absolument indispensable à l'œcuménisme. Le schéma sur la liberté religieuse, c'était une déclaration plutôt qu'un schéma, enfin, il y avait aussi les deux, d'ailleurs. C'était qu'aucune église ne peut imposer sa vérité aux autres églises, même séparées d'elles. Ça, c'était pour la position officielle de l'Église catholique, une véritable révolution. Et quand la plénière s'est dissoute au Concile et que donc des commissions ont été créées pour travailler sur les différentes questions qui devaient être étudiées, les observateurs non catholiques, pour ce qui était de l'Église réformée de France, c'était le pasteur Hébert Roux, qui était un ancien du réveil des brigadiers de la Drôme, hein, qui était le délégué officiel. Eh bien, ces gens-là partaient dans les commissions. Et là, ils étaient consultés. Ils pouvaient intervenir. Une chose importante dans ce schéma sur la liberté religieuse, l'Église catholique a accepté de dire qu'elle n'avait pas toute la vérité. Elle a dit que l'essentiel de la vérité se trouvait dans l'Église catholique, l'essentiel. Donc ça voulait dire que tout n'y était pas. Et cela souvent sous la pression justement des observateurs non catholiques. Les observateurs non catholiques ont réussi à infléchir également le Vatican II dans un autre domaine, celui de l'écriture et de la tradition. Les deux sources de l'autorité pour l'Église catholique jusqu'à Vatican II étaient l'écriture et la tradition, qui étaient mises sur le même plan. À partir de Vatican II, on a dit l'écriture est la source de l'autorité et de l'écriture découle la tradition. C'était de ces ambiguïtés, de ces subtilités dont l'Église catholique a le secret. Mais enfin, bon, il y avait déjà... On a voulu employer un langage biblique, disait Bérou, plus qu'un langage patristique. Bon, c'était quand même intéressant. Il y a eu réhabilitation de la Bible, ça c'était aussi une chose très importante, parce que la Bible, dans la tradition catholique, jusqu'alors, ne pouvait pas être... Enfin, ne devait être lue par le peuple, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, canoté. Et une Bible officielle, une Bible catholique, doit toujours avoir l'imprimature de l'autorité catholique, ça veut dire avoir des notes qui expliquent comment il faut la comprendre dans une perspective catholique. Bon. Mais jusqu'à Vatican II, finalement, l'Église n'encourageait pas et même décourageait, voire interdisait, que le fidèle ait accès directement à la Bible. À partir de Vatican II, ça a été autre chose. On a encouragé les catholiques à lire et à étudier la Bible. Alors, l'idée aussi qui est apparue à Vatican II, c'est que, bien sûr, l'Église catholique était la véritable Église, le corps mystique du Christ, et que les autres Églises se regroupent, s'ordonnent autour d'elles. Elles sont plus ou moins loin, selon qu'elles ressemblent plus ou moins à l'Église catholique. Par exemple, l'Église orthodoxe est beaucoup plus proche que les Églises protestantes, vient ensuite l'Église anglicane, puis ensuite, bon, etc. Mais finalement, tous les chrétiens sont peu ou prou des catholiques, quoi. Sont des catholiques plus ou moins purs. Hein. Et finalement, appartiennent plus ou moins à la juridiction papale, quand même. Voilà, ça c'est là, jusqu'à aujourd'hui, l'idée de l'Église catholique. Bien. Dans le même temps, c'était le concile qui battait son plein, Paul VI, qui avait succédé à Jean XXIII, mort tout à fait au début du concile, je ne sais même pas s'il a pu l'ouvrir, il a dû l'inaugurer, puis il est mort. Eh bien, Paul VI a décidé d'entreprendre un voyage œcuménique à Jérusalem. C'était en 1964, fin de l'année 1964. C'était une véritable révolution, car depuis des siècles, aucun pape n'avait quitté le Vatican pendant son pontificat. Ce qui montre d'ailleurs en quoi Jean-Paul II, dans ce domaine-là, a rompu avec les traditions ancestrales. Mais son prédécesseur, si on nommait le malheureux Jean-Paul Ier, qui n'a pas eu le temps de faire grand-chose, n'est-ce pas ? Son prédécesseur a été le premier à lever le tabou, si j'ose dire. Donc, dans un souci de retour aux sources qui allait dans l'esprit du Concile, Paul VI s'est rendu sur les lieux saints, en pèlerinage aux lieux saints. Il a voulu préciser que ce voyage n'avait aucune arrière-pensée politique, c'était, bon, etc., avec le conflit israélo-arabe, qui était très vivement exacerbé dans le Concile, puisqu'on a vu que pour ce qui concernait le schéma sur les Juifs, les évêques des églises orientales étaient très contre, justement, qu'on lève toutes les ambiguïtés qu'il y avait par rapport aux Juifs, le déicide et toutes ces choses-là. Et au retour de son voyage en Terre Sainte, Paul VI a rencontré alors le patriarche de Constantinople qui avait succédé à Joachim III, qui s'appelait Athénagoras Ier. Et la rencontre entre Paul VI et Athénagoras, où ils se sont donné le baiser de paix, où ils ont levé les excommunications qu'ils avaient prononcées sur leurs églises mutuelles, enfin, que leurs devanciers avaient prononcées sur leurs églises mutuelles. Donc, il y avait une espèce de reconnaissance d'une ecclésialité, donc d'un côté comme de l'autre. Une espèce de réconciliation. Bien entendu, tout n'était pas réglé, loin s'en faut, notamment les problèmes théologiques. Mais il y avait levé des excommunications réciproques. En fait, la levée des excommunications réciproques a eu lieu un an plus tard, en 1965. Enfin, c'était déjà amorcé par le fameux baiser de paix entre Paul VI et Athénagoras, qui a été salué comme un événement œcuménique majeur, n'est-ce pas, à cette époque-là. En 1967, Paul VI a effectué un deuxième voyage à Istanbul, à Constantinople, où il a à nouveau rencontré Athénagoras. Puis c'est Athénagoras qui est venu à Rome. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'Église orthodoxe a à fond joué la carte de l'œcuménisme. Il faut dire que l'Église orthodoxe était entrée dans le Conseil œcuménique des Églises à l'Assemblée de New Delhi en 1961. Et à partir de 1961, quand l'Église orthodoxe, les églises orthodoxes, pas toutes puisqu'elles sont autocéphales, donc, mais enfin, la majorité des églises orthodoxes sont entrées dans le Conseil œcuménique des Églises, ça voulait dire que ce qui avait été une grande réticence des prélats orthodoxes en 1906, comme on l'a vu, c'est pas, a été totalement levé. Et New Delhi, qui a été contemporaine de l'appel de Jean XXIII pour le Conseil œcuménique, a été salué comme un événement œcuménique à cause de l'entrée justement de ces églises orthodoxes, au même titre que la convocation du Concile par Jean XXIII. Dans le même temps, en 1966, l'archevêque de Canterbury, donc primat de l'Église anglicane, l'archevêque Ramsay, était venu à Rome, et là, Paul VI lui avait passé son anneau, c'est-à-dire il y avait aussi une espèce de reconnaissance, un geste symbolique comme le baiser de paix, ça veut dire qu'il le reconnaissait en quelque sorte comme une branche de l'Église chrétienne. La même année, en 1976, Paul VI se rend à Genève dans un geste de réconciliation aussi au Conseil œcuménique des Églises, puisque entre-temps, depuis 1950, le Conseil œcuménique des Églises avait son siège à Genève. En 1950, justement, avait eu lieu une autre assemblée après Amsterdam, donc ça avait été en 1950, Toronto, une première assemblée à Toronto. Là, on avait créé une troisième commission qui s'appelait Justice et Paix et qui avait pour but de promouvoir un christianisme pratique, de faire entendre la voix du christianisme dans les affaires internationales. Bon, il y avait donc le Life and Work, vie et œuvre, qui était donc la vie pratique des églises, si vous voulez, Faith and Order, foi et constitution, la commission de réflexion théologique, et en 1950 à Toronto, on crée une troisième commission, Justice et Paix, qui a pour but justement d'intervenir au niveau des grands problèmes sociaux, économiques et politiques du monde. Et c'est ainsi, par exemple, que cette commission va s'intéresser à l'éducation, à la promotion de la femme, aux questions de la jeunesse, etc. etc. Il est composé d'un collège qui, au départ, comprend 6 membres, puis va passer ensuite à 24. Excusez-moi, je vous ai dit une blague tout à l'heure. En 1948, le premier secrétaire général du COE n'était pas le pasteur Wisseroof, mais Carson Black. C'est en 1966 que Wisseroof a remplacé Carson Black. Et puis en 1971, donc, Wisseroof a passé la main au pasteur Philip Potter, qui était un noir. C'était aussi quelque chose de tout à fait important pour le COE d'avoir un noir comme président. Ça voulait dire qu'il s'ouvrait au tiers monde, quoi. Bon. En 1948, l'Église catholique avait été invitée, mais avait bouté l'invitation. Déjà en 1954, donc 50 Toronto, 1954 Evanson, à côté de Chicago, où se retrouvent des représentants de 163 églises représentant 58 pays, l'Église catholique interdit toujours sa participation. Et le grand tournant, là on dit tout à l'heure, c'est 1961 New Delhi, l'Assemblée de New Delhi, 166 églises, 68 pays, et 5 observateurs catholiques. Pour la première fois, donc, l'Église catholique envoie des observateurs. C'est l'entrée des orthodoxes, nous l'avons dit, et aussi d'un certain nombre d'autres églises évangéliques qui soit étaient sorties au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand le COE avait pris une coloration assez moderniste quand même, n'est-ce pas ? Mais c'est ainsi qu'on voit entrer des églises baptistes, sauf les églises baptistes du sud des États-Unis qui refusent d'entrer. Les pentecôtistes chiliens entrent aussi dans le COE à partir de 1961, mais les autres pentecôtistes, les pentecôtistes américains, Assemblée de Dieu, Église de Dieu, etc., refusent d'entrer. Voilà, par exemple, un certain nombre de documents qui ont été décidés à New Delhi. Par exemple, voilà, ici, recentrer, si vous voulez, la base doctrinale minimale à la demande des orthodoxes. Les orthodoxes, qui sont très trinitaires, vous savez, ont tenu à ce qu'on reprécise justement ce qu'était la différence séparatrice, qui faisait qu'on ne pouvait pas entrer dans le... Et alors, on a resserré encore cette confession doctrinale. Le COE est une association fraternelle d'églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, selon les Écritures, et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'était donc demandé par les orthodoxes. Ensuite, on a reprécisé quel était le modèle d'unité qu'on avait. Qu'est-ce que l'on recherchait finalement ? Vers quoi allait-on ? Et voilà, par exemple, ce qu'a été la déclaration de New Delhi, la définition de l'unité. Nous croyons que l'unité, qui est à la fois le don de Dieu et sa volonté pour son Église, est rendue visible lorsqu'en un même lieu, tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ et le confessent comme Seigneur et Sauveur sont conduits par le Saint-Esprit pour former une communauté pleinement engagée, confessant la même foi apostolique, prêchant le même évangile, rompant le même pain, s'unissant dans une prière commune et vivant d'une vie communautaire qui rayonne dans le témoignage et le service de tous, et lorsque, en outre, ils se trouvent en communion avec l'ensemble de la communauté chrétienne en tout lieu et dans tous les temps, en sorte que le ministère et la qualité de membres sont reconnus par tous, que tous peuvent, selon que les circonstances exigent, agir, parler d'un commun accord en vue des tâches auxquelles Dieu appelle son peuple. Donc, c'est la, la définition de la pleine unité. Quoi. Bon, on était bien conscient à New Delhi qu'on n'en était pas encore là. Mais enfin, c'est vers ça qu'on allait. Et, bon. Alors, dans le même temps, donc, il y a le rapprochement orthodoxe-catholique qui se fait indépendamment de cette entrée dans le Conseil œcuménique des Églises. Et donc, en 1967, Paul VI et Athénagoras redéfinissent aussi de leur côté ce qu'est leur modèle d'unité. Voilà ce qui est publié. Le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier, avec son synode, déclarent d'un commun accord, premièrement, regretter les paroles offensantes, les reproches sans fondement et les gestes condamnables qui, de part et d'autre, ont marqué ou accompagné les tristes événements du schisme d'Orient. Deuxièmement, regretter également et enlever de la mémoire et du milieu de l'Église les sentences d'excommunication qui les ont suivies et dont le souvenir opère jusqu'à nos jours comme un obstacle au rapprochement dans la charité et les vouer à l'oubli. Troisièmement, déplorer enfin les fâcheux précédents et les événements ultérieurs qui, sous l'influence des divers facteurs parmi lesquels l'incompréhension et la méfiance mutuelle, ont finalement conduit à la rupture effective de la communion ecclésiastique. En accomplissant ce geste de justice et de pardon réciproque, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier espèrent qu'il sera agréé de Dieu et apprécié par le monde chrétien tout entier, mais surtout par l'ensemble de l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe, comme expression d'une sincère volonté réciproque de réconciliation et comme une invitation à poursuivre dans un esprit de confiance, d'estime et de charité mutuelle le dialogue qui les amènera, Dieu aidant, à vivre de nouveau pour le même grand bien des âmes et l'avènement du règne de Dieu dans la pleine communion de foi, de concorde fraternelle et de vie sacramentelle qui exista entre elles au cours du premier millénaire de la vie de l'Église. Donc là, dans ces années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, il y a un rapprochement œcuménique extrêmement rapide, extrêmement spectaculaire, extrêmement impressionnant, n'est-ce pas, qui soulève bien des espérances dans le monde chrétien et qui font aussi un grand impact sur le monde. Le monde qui commençait à voir l'Église plutôt d'un œil négatif. Et il est intéressant de noter que pendant toute cette période-là, toutes ces questions font la une des journaux, etc. L'œcuménisme, tout le monde en parle finalement, même les incroyants. Et là, on a l'impression d'un printemps, un nouveau printemps du christianisme, d'une nouvelle page du christianisme, que à nouveau l'Église chrétienne, pas seulement l'Église catholique qui vient de faire son aggiornamento par Vatican II, mais toutes les églises finalement sont en train de connaître un nouveau printemps et que une nouvelle épopée de l'Église, une nouvelle épopée du christianisme s'ouvre dans cette deuxième moitié du XXe siècle. On verra qu'à la fin du siècle, hélas, on est revenu de ces illusions beaucoup, n'est-ce pas? Mais enfin, à cette époque-là, c'est l'euphorie, n'est-ce pas? Dans les églises, sauf les églises qui sont réfractaires à l'œcuménisme, mais autrement, et y compris justement dans la société tout entière. Voilà, on va arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?